Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous sommes le 24 mai. Pas mal d'informations au niveau, j'ai une page entière au niveau de l'éphéméride, notamment au niveau sciences et techniques. Je vais y arriver, pardon. Ça va être difficile cette émission. Si je commence à bugger déjà dès le début, c'est que ça va être compliqué pour la suite. Je tiens à vous préciser tout de suite. Le 24 mai 1844, c'est la date de l'envoi du premier télégramme en Morse par Samuel Morse, bien évidemment. Le message indique « What had God wrote ?»« Qu'est-ce que Dieu a forgé ?» en français. C'est le premier télégramme. 1844. 1883, c'est le pont de Brooklyn à New York qui est ouvert au trafic après 14 ans de travaux. Et en 1938, toujours un 24 mai, c'est la création du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. C'est en 1938 quand même déjà, le CNRS. Naissance, alors c'est là qu'il y a pas mal de choses à dire, parce que toutes les semaines, à chaque émission de Biotine, on commence par l'éphéméride et on prend toujours une date de naissance et la date de décès d'un grand scientifique. Et là, on en a deux qui sont quand même assez intéressants. La naissance, hein, 24 mai 1686, de Gabriel Fahrenheit. Ah oui, Fahrenheit, ça nous dit quelque chose. Physicien allemand à l'origine de l'échelle de température qui porte bien sûr son nom, les températures des degrés Fahrenheit. À 15 ans, Fahrenheit, il perd ses parents qui sont morts accidentellement à la suite de l'ingestion de champignons vénéneux. Et pendant que ses quatre frères et sœurs sont placés dans des familles d'accueil, il débute comme apprenti chez un marchand de Danzig qui va l'envoyer à Amsterdam. Et en 1704, il commence à se passionner pour les sciences naturelles et il découvre les thermomètres florentins. Et son intention, c'est de fabriquer des appareils de physique et de les commercialiser. Mais l'expérimentation le détourne graduellement vers une vie scientifique. L'échelle de Fahrenheit était largement utilisée en Europe, hein, quand même jusqu'à la Révolution française. Faut pas oublier qu'il y avait quand même un grand essor de l'échelle de Fahrenheit. Elle a été remplacée au fur et à mesure par l'échelle Celsius, mais l'échelle Fahrenheit, elle est souvent encore utilisée dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où elle est l'échelle officielle. Gabriel Fahrenheit, il a décidé de définir son échelle par deux températures de référence. Une température basse, qui sera la plus basse mesurée durant le rude hiver de 1709 dans sa ville natale de Danzig. Et plus tard, en laboratoire, il a atteint cette température lors de la solidification d'un mélange d'un volume égal de chlorure d'ammonium, j'allais y arriver, et d'eau. Donc ça, c'est sa température basse. Et la température haute, bah, c'est celle du sang de cheval. Voilà, comme ça, il a les deux températures et ça lui permet de pouvoir définir son échelle. Il divise son intervalle qu'il avait donc en 12 unités. Et puis après, il avait divisé par 8. Bref, c'est quand même assez compliqué tout ça. Mais il arrive quand même à avoir une échelle qui est encore utilisée aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas ce qu'on peut noter, c'est que Fahrenheit n'a jamais utilisé le point d'ébullition de l'eau comme point fixe eau, parce qu'il disait que ce point varie avec la pression atmosphérique, donc il a utilisé comme échelle haute, comme point haut, la température du sang de cheval. Voilà, c'est intéressant à savoir. Décès, toujours à 24 mai 1543, alors on remonte au XVIe siècle, mais c'est le décès de Nicolas Copernic. Et là, c'est pareil, Copernic, ça nous dit aussi quelque chose. Astronome polonais, également chanoine, médecin, mathématicien. Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Terre tourne autour du Soleil. Soleil supposé au centre de l'univers, c'est totalement contre l'opinion qui était admise, parce qu'au départ, on pensait que la Terre était centrale et immobile. Et les conséquences de cette théorie qui a causé de profonds changements des points de vue scientifiques, philosophiques, et religieux, bien sûr, eh bien, c'est tout ça on désigne comme étant la révolution copernicienne, bien sûr, en référence à Copernic. Alors, le lieu exact de l'inhumation de Copernic, c'est longtemps demeuré inconnu, mais en 2005, il y a 20 ans, il y a eu des ossements qui sont retrouvés dans la cathédrale de Frombork, en Pologne, près de l'hôtel dont il avait la charge. Et le 20 novembre 2008, des chercheurs de l'Institut médico-légal de Cracovie et de l'Université d'Uppsala confirme que le crâne et le fémur qui ont été retrouvés sont bien ceux de Copernic. Ça a été confirmé grâce à deux cheveux trouvés dans un exemplaire d'un livre que Copernic s'était servi toute sa vie, et ce livre a été conservé en Suède. Donc on a pu faire un petit peu le rapprochement d'un côté les cheveux, de l'autre le crâne, et donc on s'est dit c'est bien Copernic. Et donc en 2010, Copernic, dont les restes sont identifiés, est enterré à nouveau dans cette cathédrale de Frombork, c'est dans le nord de la Pologne. Et lors de la cérémonie religieuse, eh bien, le cercueil de Copernic est à nouveau enfoui sous le sol de la cathédrale qui avait été construite au XIVe siècle, au pied d'une tombe neuve en granit noir frappée d'une représentation d'un modèle du système solaire. Nicolas Copernic est donc décédé le 24 mai 1543. Donc voilà, Fahrenheit d'un côté, Copernic de l'autre. C'est vrai, aujourd'hui, c'était assez riche au niveau de l'actualité, au niveau de cette éphéméride, bien évidemment. Dans cette émission, qui sera un petit peu plus courte que d'habitude, on va écouter un peu de musique, bien sûr, et puis on va feuilleter un petit peu la revue de presse d'actualité scientifique. Alors là, c'est assez intéressant, on va partir en Égypte, hein, l'Antiquité, qui a transformé le bassin méditerranéen et le Proche-Orient en véritable carrefour culturel, politique et militaire. Il y a de nombreux vestiges qui témoignent des différentes conquêtes menées par les Égyptiens, les Grecs ou encore les Sumériens. Eh bien, une nouvelle découverte qui vient s'ajouter à la liste assez riche du patrimoine ancien de la Jordanie, au sein de la réserve de Wadi Rum, c'est au sud de Petra. Il y a des archéologues qui observaient récemment la présence de gravures sur une paroi rocheuse. Eh bien, des spécialistes ont rapidement identifié la marque d'un célèbre pharaon du Nouvel Empire qui a régné il y a plus de 3000 ans. Le symbole de Wadi Rum, c'est un cartouche que les égyptologues attribuent au pharaon Ramsès III. Ramsès III, qui est considéré comme l'un des plus prestigieux du Nouvel Empire. Il est propulsé au pouvoir en 1184 avant Jésus-Christ. Son accession au trône marque un tournant dans l'histoire de l'Égypte antique, parce que le royaume connaît une récession économique quelques années après le début de son règne, tandis que des incursions du peuple de la mer déstabilisent plusieurs provinces sous domination égyptienne, et ces peuplades débarquent par le littoral depuis le nord du Levant. Ils vont piller de nombreuses cités de la région, et donc Ramsès III amorce alors sa 8e année de règne. Les agressions sont racontées dans le temple funéraire bâti sur ordre du pharaon à Medinet-Abou. Et à cette époque, l'Égypte étendait son emprise jusqu'à la Syrie, contrôlant des zones en Jordanie, en Israël ou dans le Sinaï. Et donc la découverte du cartouche est une première pour les archéologues jordaniens, qui vont collaborer avec les autorités égyptiennes. Et donc dans un communiqué daté du 19 avril, eh bien, la Jordan News Agency relaie l'enthousiasme des chercheurs, hein, qui indiquent que la gravure est la marque du riche passé de la Jordanie, qui est un véritable carrefour et un berceau civilisationnel. Ils appellent désormais à la mobilisation de volontaires et la concrétisation d'une mission afin de mener des fouilles sur place, jugeant la probabilité de présence de vestiges et d'artefacts élevés, bien évidemment. Donc c'est assez intéressant, cette découverte d'un cartouche du pharaon Ramsès III dans le sud de la Jordanie. Superbe histoire, je trouve, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai que c'est assez fascinant et assez intéressant. Allez, on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Tiens, on va juste écouter, regarder ce petit article avant d'écouter une première musique. Parlant des requins, tiens, ça va être assez intéressant. C'est un laboratoire marin. Le laboratoire de Leith, c'est l'université d'Auckland, donc nous sommes en Australie. Il y a une observation des plus surprenantes qui a été faite dans ce laboratoire. Ils ont manipulé des émissoles, c'est une espèce de petit requin endémique des eaux près des côtes néo-zélandaises. Eh bien, la biologiste marine Caroline Nieder et ses collègues ont entendu des clics distincts. Et il y a quelques semaines, en mars, hein, les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Royal Society Open Science. Et ils vont documenter pour la première fois la production active de sons chez un requin. En manipulant des jeunes requins dans des conditions contrôlées, ils ont pu confirmer leur première observation et enregistrer des clics brefs et aigus qui provenaient des requins. Ces sons, qui étaient particulièrement fréquents lors des premières manipulations, suggèrent une possible réponse au stress. à la peur ou aussi à la surprise. Et la question, c'est d'où proviennent ces sons? Bien, le mystère subsiste encore. La principale hypothèse propose qu'ils seraient dus au claquement de leurs dents plates, caractéristique de l'espèce. Donc, ils claquent des dents, donc c'est ce qui ferait cette espèce de clic. Mais le phénomène se produit bouche fermée. Alors, ça reste difficile à observer directement. Le fait intéressant, c'est que la fréquence de ces sons dépasse la capacité auditive des requins, ce qui suggère qu'ils ne soient pas destinés à la communication entre eux. En revanche, certains de leurs prédateurs, comme les otaries, par exemple, perçoivent, eux, ces hautes fréquences. Et donc, les chercheurs pensent que ces clics pourraient servir de signal d'alerte, voire de mécanisme de défense destiné à perturber ou effrayer un agresseur. Reste aujourd'hui à voir si ces requins produisent des clics dans des conditions naturelles sans intervention humaine, ça serait intéressant de le savoir, mais voilà. On pensait qu'ils étaient muets, les requins, eh bien non, ils font des clics. C'est cette découverte en Nouvelle-Zélande qui nous propose ça. C'est assez fascinant, c'est assez intéressant. Bon, pas de clic, pas de muet, mais une musique. The Landskies sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine, sur Graphite.
Happy Camper, c'était le groupe The Long Seas sur l'antenne de Graphite. Alors, juste avant d'écouter The Long Seas, je vous parlais de ces requins qui faisaient des clics. Et je m'étais dit, quand même, on va essayer de retrouver ce que... C'est quoi ces clics? Ça donne ça, en fait. On va essayer de mettre ça, je ne sais pas si vous arrivez à entendre. C'est un peu métallique, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ces fabuleux clics qui ont été... Il faut que j'éteigne maintenant, je ne vais pas y arriver. Pardon, j'ai deux choses en même temps. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour moi de faire deux choses en même temps. Mais voilà, c'était juste vous faire écouter ces fameux clics de ces requins. Donc effectivement, c'est un bruit un peu particulier, quelque part, qui peut peut-être effrayer. Enfin, ça serait peut-être le but à avoir, bien évidemment. Mais voilà, c'était un peu frustré de ne pas vous faire écouter cela. Donc j'ai essayé de récupérer cet article de Futura qui permettait de diffuser ce bruit de requin. Alors, autre chose, aucun rapport, mais au niveau médecine, c'est assez, assez dramatique. En tout cas, l'ANSES a alerté sur l'effet néfaste pour la santé humaine des pesticides qui sont très utilisés en agriculture. Et ils pointent des risques pour le neurodéveloppement des très jeunes enfants, d'apparition de troubles du comportement chez eux, chez ceux qui sont exposés in utero, et de leucémie pour les travailleurs notamment. L'ANSES, c'est l'agence sanitaire qui avait mandaté un collectif d'experts indépendants pour évaluer les risques potentiels à partir des résultats d'une expertise de l'INSERM de 2013 mise à jour en 2021. Et celle-ci dresse un état des lieux des connaissances sur les liens entre l'exposition aux pesticides, c'est-à-dire des produits phytopharmaceutiques à usage agricole, des produits biocides, des produits aussi vétérinaires, et faire le lien avec la survenue de pathologies. Et ces experts ont croisé les données disponibles sur les présomptions de lien entre exposition aux pesticides d'un côté et pathologies humaines établies par l'INSERM. Celles sur les usages autorisés et les toxicités des différents pesticides, donc on a mis tout ça en place. Et au terme de ce travail, les experts mandatés par l'ANSES pointent dans un avis qui a été publié il y a quelques semaines, des signaux sanitaires dont les plus importants concernent les organophosphorés et surtout les pyréthyronides. C'est ce qui annonce l'agence. Hein. Les pyréthyronides sont utilisés comme insecticides. Et l'agence lance ainsi 4 alertes, soit le niveau le plus élevé de signal sanitaire. L'une alerte porte sur les effets de l'exposition aux pyréthyrinoïdes. Je n'y ai pas arrivé. Hein. Pendant la grossesse et la petite enfance sur le neurodéveloppement des enfants, parce qu'il y a des troubles de comportement chez les enfants de mères exposées pendant la grossesse qui ont été mises à jour. Ça suscite des préoccupations importantes et croissantes, c'est ce que pointent les experts. Une autre alerte qui porte sur l'altération des capacités motrices, cognitives et des fonctions sensorielles chez l'enfant exposé in utero aux organophosphorés. Puis il y a eu 2 autres alertes qui sont également relatives à des troubles cognitifs chez l'adulte et des leucémies. Ainsi, il y a des atteintes, je cite l'ANSES, des atteintes spermatiques ont également été identifiées dans la population générale, toutes sources d'exposition confondues, néanmoins avec un niveau de présomption plus faible. En outre, une substance de la famille des pyréthrinoïdes, qu'on appelle la deltamétrine, elle est également associée à un risque accru de leucémie en lien avec une exposition professionnelle avec un niveau de présomption moyen. Donc c'est assez inquiétant. L'utilisation de ces substances insecticides est encore très importante, aussi bien pour des usages professionnels agricoles que pour des usages biocides professionnels et amateurs, c'est ce que souligne l'ANSES. Donc voilà, l'ANSES est clair, certains pesticides exposent nos enfants à des risques graves, dès la naissance. C'est ce communiqué de l'ANSES qui date il y a quelques jours, ça date d'avril je crois, qui a été encore très peu relayé, je trouve, en fait, quelque part. On n'a pas nécessairement bien entendu parler de cela. Alors, question. Comment décimer une nuée de drones menaçants d'un seul coup? Eh bien, avec une arme, nouvelle arme secrète que vient de tester l'armée britannique. Plutôt que de miser sur une défense par laser qui ne serait pas suffisamment rapide pour abattre toute une nuée de drones, eh bien, c'est un système d'armes à énergie dirigé par radiofréquence qui a été exploité par les militaires. Il a été testé dans l'ouest du Pays de Galles et il est parvenu à détruire 2 essaims de drones simultanément, ça veut dire une centaine dizaines de drones qui ont été détruits simultanément. Avec ce procédé, le coût pour abattre plusieurs essaims de drones instantanément serait minime, selon les Britanniques. Il correspondrait à moins de 15 centimes d'euros. Effectivement, c'est quand même assez intéressant. Plus efficace et économique que de tenter d'abattre des drones en tirant une multitude de munitions. Ce système d'armes permettrait de neutraliser les drones jusqu'à 1 km de distance. Et contrairement à d'autres procédés, il ne brouille pas le signal de la transmission du drone à son opérateur, mais il grille les composants de l'appareil grâce à un puissant rayonnement électromagnétique. Et donc l'effet est totalement immédiat. L'autre atout, c'est qu'un seul opérateur suffit pour abattre ces essaims de drones. L'arme est automatisée et peut être opéré à partir de camions, de véhicules blindés ou d'autres plateformes. Selon les explications d'un sergent de l'artillerie royale qui l'a prise en main, eh bien, cette arme à énergie dirigée par radiofréquence est facile à utiliser, c'est ce que dit ce militaire, et ne nécessite pas une formation longue et compliquée. Donc, ça coûte pas cher, c'est efficace, c'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin d'être un expert pour l'utiliser, c'est quand même plutôt formidable tout ça. L'engin est en cours de test, il a été développé par le laboratoire des sciences et technologies de la défense, le ministère britannique de la défense ainsi que la division équipement et soutien de la défense. Donc tout ça reste au niveau défense et tout ça reste au niveau britannique. Des partenaires industriels dont Thales ont également participé à sa construction et cette arme pourrait être utilisée pour neutraliser une attaque de drone par saturation autour d'une base militaire ou bien de position sur un front. Il peut tout aussi bien servir à sécuriser des aéroports civils face à une menace. Donc voilà, une arme secrète que personne n'attendait. Cet engin qui peut faire tomber une centaine de drones d'un seul coup. Ça reste encore du top secret, mais ça commence à être dévoilé. Donc du coup, c'est assez intéressant. D'un point de vue technologique, c'est totalement intéressant. Après, l'utilisation des armes, ça, c'est un sujet qu'on ne va pas évoquer dans cette émission. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et puis on va aussi écouter un peu de musique. The Romani Contis sur l'antenne de Graphite.
Yeah, you just have to reach out.
Call My Name, c'était The Romani Counties. On parle de Ray Charles, hein, c'est ce que j'ai compris. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin 10h sur l'antenne de Graphite, hein, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Le site Internet qui vous permet de nous écouter en direct, hein, c'est-à-dire pendant la diffusion sur les grandes ondes, enfin sur les petites ondes FM, pardon. Mais également, vous avez la possibilité de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site Internet graphite.net. Petites informations dont celle-ci, je trouve assez étonnante, on va dire. Il y a des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie qui pensent avoir développé un appareil qui permet de déterminer les émotions en allant au-delà des expressions faciales. En fait, c'est un appareil qui est de la taille d'un pansement qu'on va fixer sur la peau et cet appareil détecte les réactions physiologiques de celui qui porte cet appareil. La température, la transpiration, la fréquence cardiaque ou encore la saturation en oxygène du sang, eh bien toutes ces réactions sont porteuses d'informations quant aux émotions ressenties. Et d'autant plus que l'appareil a été conçu pour que les capteurs n'interfèrent pas entre eux. C'est ce qui permet de fournir une image beaucoup plus claire de ce qui se passe sous la surface. C'est ce que témoigne dans un communiqué Libo Gao, qui est professeur à l'université de Xiamen et qui est l'un des auteurs de cette étude qui vient de paraître. Les données des réactions physiologiques et faciales sont ensuite transmises à une intelligence artificielle conçue spécialement pour déterminer le type de réaction émotionnelle. C'est toujours au stade d'étude, mais les résultats des tests effectués sont plutôt positifs parce qu'on est près de 90% des émotions devinées sur des dizaines de personnes étaient correctes. Donc c'est quand même assez fascinant. L'objectif de cet appareil serait avant tout d'apporter une aide aux médecins en leur permettant de mieux comprendre l'état psychologique de leur passion. Il y a un étudiant à l'Université d'État de Pennsylvanie qui a travaillé également sur cette étude, qui affirme que cette technologie a le potentiel d'aider les personnes qui luttent contre leur santé mentale, mais qui ne sont peut-être pas totalement honnêtes avec les autres ou même avec elles-mêmes. Alors c'est une technologie prometteuse, bien sûr, qui permettrait un diagnostic précoce, par exemple de l'anxiété ou de la dépression. Donc c'est vrai que ce serait plutôt intéressant et assez utile, mais enfin je trouve assez, bizarre, voilà, d'avoir maintenant l'appareil qui va pouvoir mieux connaître nos émotions plus qu'une simple analyse du visage. C'est assez, assez étonnant. Ensuite, autre chose, mais toujours au niveau technologique, si on restait connecté, si ça pouvait aider notre cerveau à rester en forme plus longtemps, c'est une question, alors qu'on entend quand même souvent que la technologie nuit à nos capacités cognitives en nous rendant soit paresseux, soit dépendants. Pour la moindre information, on va aller chercher sur Google par exemple. Eh bien, il y a une étude texane qui a été publiée dans la revue Nature Human Behavior qui vient un peu bousculer cette idée reçue. C'est une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, c'est une analyse qui va porter sur différentes études. Et dans ce cas précis, il y a eu 57 études qui ont été analysées. Et donc, on a une méta-analyse, on va dire, une super-analyse qui a été menée. Et ça révèle qu'une utilisation régulière de la technologie pourrait en fait réduire le risque de démence et d'améliorer la santé cognitive des seniors. Alors, c'est assez, assez intéressant. Michael Scullin, qui est l'un des auteurs de cette étude et qui est professeur associé de psychologie et de neurosciences à l'université Baylor, il déclare: on peut regarder les informations presque n'importe quel jour et on entend parler des dommages causés par les technologies. On parle souvent de fuite des cerveaux et de pourriture cérébrale. Et aujourd'hui, la démence numérique est une expression émergente. En tant que chercheurs, nous voulons savoir si c'était vrai. Alors, la démence numérique ou la démence digitale, il s'agit d'une idée selon laquelle l'utilisation excessive des appareils numériques pourrait affaiblir notre cerveau. Et donc, ils ont voulu travailler là-dessus et l'étude a été menée à la Dell Medical School à Austin. Et apparemment, cette étude nous dit tout le contraire. Ils ont analysé les données de plus de 400 000 personnes de plus de 50 ans. Donc, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, là, on est sur 57 études. Donc, on va pouvoir cumuler toutes les données, toutes les informations. Et on est sur un panel vraiment large, hein, 400 000 personnes de plus de 50 ans. Cette équipe a découvert que l'utilisation des technologies serait en réalité associée à une réduction du risque de troubles cognitifs. Alors pourquoi les nouvelles technologies ont-elles un impact positif sur notre cerveau, bien tout simplement parce que l'utilisation d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette fait travailler notre mémoire et notre capacité de réflexion. Nos données suggèrent qu'encourager les personnes âgées à s'engager avec la technologie, en particulier d'une manière qui aide à défier, à connecter, à compenser les problèmes cognitifs, pourrait être une approche puissante pour promouvoir la santé cognitive. C'est ce qui explique un neuropsychologue qui est l'un des auteurs de l'étude. Et puis, c'est pas tout. C'est-à-dire que la technologie n'est pas seulement bénéfique pour notre cerveau, mais elle joue aussi un rôle clé dans le maintien de notre indépendance. C'est ça qui est intéressant, en particulier chez les personnes âgées qui souffrent souvent d'isolement, un facteur de risque reconnu dans le développement de la démence. Et donc, grâce aux appels vidéo, aux messages, aux réseaux sociaux, elles vont essayer de garder un contact avec leurs proches, des échanges qui peuvent aider à préserver l'activité mentale et à ralentir le déclin cognitif. Il y a d'autres outils numériques qui agissent également comme de véritables béquilles cognitives, des applications de rappel pour les médicaments, par exemple, des GPS, des calendriers intelligents. Bref, toutes ces aides plutôt pratiques permettent de gérer les premiers signes de déclin cognitif et de rester autonome plus longtemps. Alors, attention, la prudence reste de mise parce que cette étude ne prouve pas un lien de causalité directe. Elle invite toutefois à encourager une relation positive avec le numérique, y compris après 60 ans. Et donc, enseignez à l'un de vos proches âgés comment envoyer un message ou gérer un petit peu ses rendez-vous sur smartphone. Ça serait vraiment assez intéressant parce que ça permet justement de faire travailler un petit peu la mémoire. Et donc, c'est cette méga analyse qui a permis de mettre ça un petit peu plus en avant, et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on n'avait pas nécessairement de retour direct sur l'utilisation des smartphones chez les personnes âgées. Et puis, dernière étude avant d'écouter un titre, c'est une étude publiée dans la revue PLOS ONE qui donne des informations pour savoir combien d'enfants par femme on doit avoir pour éviter une catastrophe. Si on considère très largement qu'il suffit d'un taux de fertilité de 2,1 en enfants par femme pour maintenir la population stable dans les pays développés, c'est un petit peu sous-estimé au niveau des chiffres. Ils ont fait des modèles mathématiques et les chercheurs, ils ont simulé l'évolution de différentes populations sur plusieurs générations, en incluant aussi un facteur important qui est le hasard. Ils ont pour cela intégré des facteurs aléatoires comme la probabilité que certaines femmes n'aient pas d'enfants ou la mortalité avant l'âge reproductif, en outre, et ainsi de suite. Et donc la conclusion est claire. Cette étude révélée donc dans PLOS ONE explique que pour garantir la survie d'une population sur le long terme, il faudrait viser 2,7 enfants par femme et non 2,1. Selon eux, c'est la seule façon de compenser toutes les pertes dues au hasard de la vie. Et puis si on croit un petit peu leurs résultats, c'est loin d'être joué parce que d'après une autre étude publiée l'année dernière dans The Lancet, d'ici la fin du siècle, 97% des pays auront un taux de fertilité inférieur à 2,1. Donc c'est loin d'être gagné, bien évidemment. Autrement dit, presque aucun pays ne renouvellera naturellement sa population. Seuls 6 pays échapperaient à cette tendance. La Somalie, le Niger, le Tchad, le Tchadikistan, les îles Tonga et les îles Samoa. En 2022, le taux de fécondité s'élevait à environ 2,2 enfants par femme dans le monde. Et à 1,46 en Europe, selon l'INSEE. Donc c'est vrai que c'est assez dramatique. Dans un monde où la surpopulation est un défi majeur, ces nouvelles données offrent une perspective inattendue, celle d'un déclin démographique progressif, peut-être tout aussi inquiétant à long terme que l'explosion de la population. Pour les pays riches où les populations sont encore nombreuses, l'effondrement ne se ferait pas sentir de sitôt. Mais s'il est peu probable que la population humaine soit confrontée à une extinction immédiate, c'est ce que rappellent les chercheurs, le problème pourrait être critique pour les petites populations des communautés isolées, nous dit-on. Donc voilà, c'est maintenant cette revue PLOS ONE qui vient de publier cet article nous disant qu'il faut maintenant faire 2,7 enfants par femme si on veut sauver notre peau, mes enfants. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite, à tout de suite.
Et puisque je te dis qu'elle baise les Anglais, c'est connu. Écoute, Alain, j'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on aura calvé le petit doigt, je te dis.
Hey girl, les Anglais disent I love you. savent pas dire je t'aime comme nous. Ils préfèrent dire yeah yeah. Les Anglais disent I want you, hey girl. Les Anglais disent I kiss you. Mais ils ne savent pas dire l'amour comme nous. Ils préfèrent dire hello girl, do you love me? I'm John Lennon, do you love me? À Paris. Il crie partout les filles, je vous aime. Il chante partout les filles, d'Angleterre, oh d'Angleterre.
À la sortie, crack.
Crack, what does that mean?
Oh, it's nothing, my darling. It's typical French.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Les filles d'Angleterre, c'était The Rebels of Tijuana, pardon, je vais y arriver, sur Antenne de Graphite. Il donne quelques conseils pour justement cet article que j'évoquais juste avant, qui était de faut faire 2,7 enfants par femme si on veut sauver l'humanité. Maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. Ils viennent de vous donner quelques conseils, bien évidemment. Alors, quelques petits articles avant de nous quitter. Alors, il y a le premier que je trouvais assez intéressant d'évoquer, c'était Neuralink. En janvier dernier, pardon, Elon Musk, je suis désolé, mais enfin, au niveau scientifique, il pose quand même des questions. Elon Musk, il a annoncé qu'une troisième personne, en janvier dernier, avait reçu un implant cérébral fabriqué par son entreprise Neuralink, et il n'avait pas donné de détails. Le Neuralink N1 a déjà permis aux deux premiers patients de contrôler un ordinateur par la pensée, c'est ça l'idée. Et ça leur donnait une certaine autonomie, notamment quand ils étaient paralysés. Eh bien, nous savons désormais, on en sait désormais un petit peu plus sur l'identité de ce troisième bénéficiaire de cet implant. Ce troisième patient s'appelle Brad Smith. Il est entièrement paralysé, jusqu'au point d'avoir perdu l'usage de la parole et d'être dépendant d'un ventilateur pour respirer. Et son seul moyen de communiquer auparavant était avec un système de suivi de ses yeux. L'homme est atteint de sclérose latérale amyotrophique, ce qu'on appelle la maladie de Charcot, une maladie où les neurones meurent progressivement, les neurones moteurs, et donc du coup on devient progressivement paralysé, c'est une maladie horrible. Et ce Passion donc vient de publier une vidéo pour partager son histoire. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a pu s'occuper du montage et de la narration lui-même grâce à cet implant Neuralink. Cet implant est composé d'un disque relié à des fils ultra fins qui sont placés dans le cerveau. Tout ça, on fait ça grâce à un robot chirurgical conçu spécialement pour cette opération. Et chaque fil contient 16 électrodes, donc on a un total de plus de 1000 électrodes dans le cerveau. Et toutes les données sont envoyées à l'ordinateur qui va analyser et transformer toutes ces données en commandes. Et les chercheurs ont été confrontés à plusieurs problèmes, notamment des fils souples qui se déplacent. Bien sûr, c'est pas rigide, hein, ça bouge tout ça. Ou alors la formation d'une espèce de, comment dire, comme une cicatrice quelque part qui va réduire la sensibilité des électrodes. Et donc le patient Brad Smith a réussi à retrouver sa propre voix grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il a pu utiliser d'anciens enregistrements pour cloner sa voix et donc apporter un petit peu une narration à sa vidéo. Il a édité sa vidéo sur un MacBook Pro qui traite les données en provenant de son implant. Il a pu déplacer le curseur de la souris, c'est quand même assez fascinant, et plutôt que de penser à déplacer son bras pour commander la souris, il se focalise sur sa langue et il imagine serrer la mâchoire pour cliquer. Et donc c'est ce qui lui permet, grâce à cet implant, qui va pouvoir repérer tous ces éléments, ils vont pouvoir donc agir directement sur l'ordinateur. Donc nous sommes encore loin d'un appareil qui pourrait lire ses pensées et parler à sa place en temps réel, mais cela représente quand même une avancée un peu considérable, en tout cas assez étonnante pour ce patient. Donc on est quand même à un stade expérimental de Neuralink, hautement expérimental, mais expérimental quand même, qui n'est pas sans risque et qui n'est pas non plus sans controverse, bien évidemment. En 2022, il y a un rapport qui avait dévoilé que 70% des primates utilisés pour les expériences n'avaient pas survécu à l'implant. Et l'année dernière, le premier patient humain à recevoir l'implant a rencontré quelques difficultés. Il y a eu un certain nombre de ces 1000 électrodes qui a commencé à se rétracter, ce qui rend le contrôle de l'ordinateur plus difficile, et il n'en resterait plus que 15% apparemment maintenant. Les scientifiques ont pu compenser en modifiant les algorithmes, mais impossible à l'heure actuelle de savoir combien de temps fonctionneront les autres électrodes encore opérationnelles, et il est aussi difficile de savoir s'il sera possible de les remplacer, parce que bon, c'est quand même une chirurgie un peu lourde tout ça, donc effectivement il faut essayer de trouver quelque chose qui soit un petit peu plus stable sur la durée. Les trois patients font partie d'une étude qui est censée durer 6 ans. Alors Neuralink, c'est pas la seule entreprise à travailler sur ce genre d'appareil. Il y a également Synchron qui travaille également sur la forme d'un stent. Son implantation est beaucoup moins invasive puisqu'il passe par la jugulaire pour être placé au niveau du cortex moteur. Toutefois, eh bien, ce dispositif serait moins sensible que des électrodes directes dans le cerveau. Oui, ça on peut le comprendre. Enfin bon, il faut quand même apprécier d'avoir des électrodes dans le cerveau. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Precision Neuroscience qui a opté pour une bande flexible placée sur la surface du cerveau. Et les implants ne servent pas uniquement à commander des appareils par la pensée. Il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur des petits appareils qui permettraient de traiter la dépression, l'épilepsie ou même les troubles bipolaires. Je vous le dis souvent dans cette émission depuis plusieurs moments, de plusieurs années même, le cerveau est vraiment, au niveau du corps humain, la région totalement inconnue à explorer encore. Et donc il y a beaucoup de recherches qui sont menées au niveau du cerveau. Il y a des maladies neurodégénératives, Parkinson, l'Alzheimer, qui sont encore très très loin d'avoir un minimum de début de thérapie positive. Il y a quelques pistes intéressantes, mais on est encore très très loin. Et donc là, on est encore dans cette exploration d'un monde inconnu qu'est le cerveau. Neuralink, on en parle depuis plusieurs années maintenant dans cette émission. Là, on parlait du projet. Là, maintenant, on est dans une phase d'expérimentation sur 3 patients. Donc, on est quand même encore très, très loin d'avoir quelque chose de bien abouti. On est sur des expérimentations qui sont encore lourdes, douloureuses. Enfin, elles sont quand même assez lourdes à vivre pour ces patients. Mais si on regarde d'un point de vue purement technique, c'est quand même assez formidable d'un point de vue technique, donc assez troublant de voir ce que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'on commande des choses par la pensée pour pouvoir ensuite pouvoir les faire en pratique, et donc de pouvoir faire un montage d'une vidéo et d'avoir sa voix qui est capable de faire la narration de cette vidéo uniquement par la pensée et le contrôle d'un ordinateur à distance par le biais de ses implants. Techniquement, effectivement, c'est quand même assez étonnant et c'est quand même assez, j'allais dire, formidable. Je parle d'un point de vue technique. D'un point de vue éthique, c'est toujours compliqué d'aborder ces sujets sur la distance, bien sûr, parce que on n'aborde pas ces sujets d'un point de vue éthique. Ces choses sont en train de se faire. On est dans des pays qui communiquent, dans des démocraties, dans les États-Unis. Donc, mais ce n'est pas le seul pays qui est engagé dans cette voie-là. Il y en a plein d'autres également où on a très peu de communication sur ce qui se fait actuellement. Et c'est des choses qui sont en train de nous dépasser totalement. Donc, effectivement, c'est pour ces patients extraordinaire. C'est évidemment, même si ça doit être douloureux, c'est quand même assez formidable. Mais voilà, qui contrôle tout ça ? C'est des vrais sujets qu'il faut, enfin, qu'on évoque souvent dans cette émission. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on est juste dans une émission d'information. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des sujets qu'il va falloir aborder. Je trouve, voilà, j'ai toujours un point d'honneur à aborder ces sujets dans cette émission. Mais ne pas donner d'avis, je dis juste voilà ce qui est en train de se faire, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, dans le domaine du cerveau, il y a des choses formidables qui sont lancées, il y a pas mal de pistes qui sont assez prometteuses et qui sont encore en voie d'investigation. Mais voilà, vers quoi on va aller, vers quoi on souhaite aller, toutes ces questions-là sont encore assez... sans réponse, on va dire, parce que difficilement abordé. Mais au moins, voilà, on l'aura fait dans cette émission. C'est la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. On va écouter un dernier titre. Et puis, alors, je me fais un petit plaisir personnel. J'adore ce titre de Joe Vending et Gene Felsin, qui s'appelle Idiot. Peut-être un monde. Le monde comme ça était idiot, allez savoir. Et puis, on se dit au revoir juste après.
Ces mots-là, arrête donc de gémir. Oh, dis-moi, quand vas-tu grandir, idiot? Tu crois qu'il faut tout dévoiler, idiot? Mais il faut garder des secrets, je te lis.
Dans des soupirs, il faut jamais.
Idiot, Joe Vedin et Jane Felsin sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. On se retrouve. Alors, on se retrouve pas samedi prochain, non, pardon. Je serai absent samedi prochain. On se retrouve début juin. Je ne sais plus quelle date. Je ne l'ai pas noté sous les yeux. J'en suis désolé. Mais voilà, une petite pause d'une semaine. Oh, ça devrait le faire. Je pense que vous allez pouvoir vous en remettre, à mon avis. Oui, c'est possible. De toute façon, si je vous manque, eh bien, vous allez sur le site internet graphite.net et puis vous avez tous les podcasts de toutes les émissions de Biotine. Comme ça, vous pouvez réécouter, si vous le souhaitez, cette émission sur l'antenne de Graphite. Donc rendez-vous dans 15 jours. Mais d'ici là, bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine à l'écoute de toutes les émissions de Graphite. Bonne journée, à bientôt, au revoir.